Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue
dans Cour d'honneur.
Saison 4, épisode 14.
Ici, deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici, Chérine.
Ici, Swan.
À Cour d'honneur, on aime farfouiller.
Dans les archives des bibliothèques ou des chœurs.
On vous dévoile des reliques.
Et des vestiges.
La musique aide.
En ces temps politiques difficiles.
Avec le Solidaise, on est solidaires. Dis-moi, Swan, c'est quoi être étudiante à Sorbonne ?
Mais justement, Chérine, on y répond sur Cours d'honneur, un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le magazine d'info et de culture avec toujours une pointe d'humour.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
Depuis plus de 10 ans. Pendant une heure, nous vous promettons de parler...
D'amour.
Pourquoi t'as l'air triste ?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi, on peut pas avoir de conversation.
De festival.
Jour 2 pour ce festival Solidaise qui bat son plein ici à l'hippodrome de Longchamp, 26e édition, plus de 260 000 personnes attendues.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir. Bonsoir Clara.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir ?
Alors ce soir on va faire un peu de sport parce que ça va être les Food Runner Club.
Oh nice.
On embrasse Elias qui n'est pas là, qui nous a quittés, qui est à La Rochelle, à la plage. On lui fait des bisous.
Oui, on préférait y être, mais non. Bonsoir Alice.
Salut les filles.
Hello.
Alors aujourd'hui, je vais peut-être avoir une voix un peu bizarre, mais je crois que l'allergie au pollen est en train de me voler mon âme petit à petit. Donc je vais faire au mieux.
À nous tous, à nous tous.
Bonsoir à Jade également.
Bonsoir. Moi, ce soir, ça va être full sport, parce que je parlais de sport aussi, mais du sport pour les personnes invalides, plus précisément.
Trop cool.
Ok, ouais. Nice. On a aussi Ellie ce soir avec nous.
Bonsoir à tous. Alors, moi, ce soir, je vous amène voir nos chers étudiants qui vont nous parler de la coupe budgétaire qui concerne l'enseignement supérieur.
Et Lavinia qui nous présente aussi.
Hello les filles, alors ce soir je vous ai préparé une chronique où ce sera surtout un couple en philosophie qui va nous parler de leur relation. Donc voilà, nouveau Sorbonne in Love.
Enfin, il était temps. Sans oublier évidemment notre grand Thomas Pesquet, Thomas Dutronc. Et non, j'arrive à court de Thomas, mais c'est encore le fameux, le célèbre, l'unique Thomas Schnell derrière.
Bonsoir à tous, j'ai décidé de quitter les terrasses ensoleillées pour venir être avec vous, vous avez de la chance.
Dieu merci. Faites comme chez vous, chers auditeurs, alors installez-vous et prenez place du haut de l'amphi.
Dans votre chambre de bonne ou aux toilettes sur le palier.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment possible.
Carte blanche. L'actualité économique nous prend la tête. Pays grand comme petit tremble selon les paroles de l'insensé, du diabolique, du pourtant président Trump. Bourse en baisse, taxes en hausse, les nouvelles modalités nous font valser. Et plutôt que de se prendre la tête, on aimerait prendre la Bastille. Tout de suite, grand discours contre ce scandale commercial avec Swan pour l'édito.
Oh, quelle joie, voilà la guerre commerciale qui débarque sur notre sol. Et pour les Français, c'est un vrai casse-tête, la tête dans le bol. Le budget déborde comme un sac trop rempli, on cherche désespérément le plan, mais où est-il ce bon petit ? Les bourses, elles, dansent la samba, sans gêne, sans compte de pas. Ça monte, ça grimpe, mais qui en profite ? Tandis qu'entre le Japon et les États-Unis, tout se complique et s'imbrique. François Bayrou, le grand sage, se met en scène, prêt à nous annoncer la fin de nos belles rengaines. La France va serrer la ceinture, c'est la fête à l'austérité. Mais pas pour les ministres, tranquille, ils resteront bien dorés. Ah oui, la ceinture, je l'ai bien vue sur la taille des Français, mais pour nous, pour nos chers dirigeants, c'est plutôt un surplus de caviar en fait. Les Français consomment trop, c'est bien connu, et voilà qu'on leur reparle de tout, impôts, salaires, retraites et plus-values. C'est un cauchemar budgétaire qui fait trembler le sol. Où est passée la lumière, où est donc le bol ? L'État a décidé interdiction de toucher aux impôts, c'est trop beau, mais alors que faire ? Oh mais bien sûr, la grande idée, on interdit les imports, c'est la symphonie du « on va sauver l'ignoré ». Qui va trinquer, vous me direz ? Les petites boutiques, évidemment, les grandes surfaces peut-être, mais elles s'en fichent royalement. Les marchés asiatiques, allez, une touche finale, on les met dans la liste des fautifs, c'est presque génial. Trump n'a pas l'air de s'arrêter, il dit au pays de lui biser le cul, il hausse les taxes sans hésiter, il ne semble pas prendre de recul. Les chiffres au hasard comme une roulette en folie, mais son but est clair, défendre l'économie, sa mélodie. Il lance la première boule de neige sans regret pour un électorat qui rêve de l'Amérique retrouvée. Mais attention mes chers amis, car derrière la façade, les citoyens auront bien du mal à suivre la croisade. Alors entre le ministre qui tape sur la table et Trump qui fait son cirque, les Français devront danser, mais sans trop de fric. Le budget c'est le balai, mais les pas sont maladroits. Qui va payer la note ? Pas vous, pas moi, mais on y est presque, voilà.
Merci Swan pour ce beau poème engagé et pour ce beau coup de gueule aussi sur les présidents.
Avec
grand plaisir. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne.
Il est 16h sur Radio Campus Paris.
Dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant
place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Une nouvelle fois ce semestre, la Sorbonne a été perturbée par des mouvements contre l'austérité. Les étudiants mobilisés dénoncent les coupes budgétaires prévues par le gouvernement pour limiter le dérapage des finances publiques. L'université doit-elle être épargnée par les efforts budgétaires ? Sorbonne Université ne peut-elle pas se serrer la ceinture ? Serait-ce normal que l'université échappe aux économies ? Nous avons posé la question aux étudiants.
Je trouve que c'est important d'avoir un cadre de travail agréable. Le budget dans lequel, enfin, le budget pour, je sais pas, du matériel scolaire, des bonnes chaises, des amphithéâtres agréables, des ordinateurs adaptés, il faut pas que ça soit restreint parce que c'est ce qui nous permet de travailler et si c'est restreint, les étudiants après, c'est plus compliqué de travailler.
Je pense que les étudiants ne devraient pas non plus avoir à être restreints au niveau du matériel. La fac, c'est quand même censé justement apporter un cadre où on peut, par exemple, là, je pense surtout à la bibliothèque, emprunter des ouvrages, avoir accès à une éducation gratuite, quoi, finalement, avec du matériel gratuit ou du moins peu coûteux, quoi. Donc, je pense que c'est important que la fac elle continue de mettre des moyens là-dedans pour pas que les étudiants se restreignent par rapport à ça, quoi.
Non, je trouve que c'est totalement injuste. Parce qu'il y a déjà quand même eu. Il y a déjà eu des mesures comme réduction des effectifs, réduction des budgets, des bibliothèques, pour acheter des nouveaux bouquins. Et le fait que ce soit quand même visé particulièrement contre les filières sciences humaines. Je trouve que c'est totalement injuste.
Par rapport aux coupes budgétaires, je pense que les manifestations elles sont totalement justes, même si nous, quand même, à la Sorbonne, on reste dans un très beau cadre, parce que c'est un monument historique qui est très bien entretenu. Je pense notamment aux autres facs, comme Rennes 2, où les bâtiments ils sont délabrés. Il y a même des facs qui n'ont pas de chauffage. Le corps enseignant est beaucoup plus moindre. Même on voit toutes les ouvertures de bâtiments qui vont vers le privé et c'est très important que les fonds soient encore mis dans le public pour qu'il y ait une accessibilité égalitaire pour tout le monde, je pense. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que la Sorbonne devrait s'appauvrir ?
Alors non, moi je pense pas. Et puis en plus de ça, comme tu as dit, c'est un vrai cauchemar économique en ce moment. Et je tiens d'ailleurs à rappeler que depuis la loi qui a été votée d'ailleurs par 49.3 par notre cher Premier ministre Bayrou, la coupure budgétaire qui équivaut du coup à 1,5 milliard d'euros, ça équivaut à fermer 6 universités françaises, comme par exemple Rennes 2, Sorbonne Université ou encore Lyon 3. Donc, je trouve ça très grave, surtout que, comme une des étudiantes l'a dit, ça amène plus vers le privé et donc ça menace l'enseignement gratuit. Et on n'est pas. Enfin, une société ne peut pas être construite sur ça, c'est pas possible. Enfin, c'est trop dangereux pour l'enseignement et pour le savoir en général. Donc, voilà.
Je suis bien d'accord. Surtout que je vois pas pourquoi est-ce que l'éducation ne serait pas mise en priorité, en fait. Pourquoi est-ce qu'on. On se dirait que c'est OK de supprimer cette forme d'éducation-là à des dépens financiers. En fait, ça n'a aucun sens, surtout que l'argent, il n'est pas à chercher là où il y en a le moins pratiquement. Enfin, les étudiants, ce n'est pas nous qui allons enlever l'argent du pays, quoi.
Non, mais après, là, on va pas prendre l'argent dans la poche des étudiants. Hein. C'est qu'on se demande si, dans tout le personnel administratif de la Sorbonne, on pourrait pas supprimer certains postes. On se demande si, dans tous les moyens qui sont mis à disposition des étudiants, on pourrait pas faire un petit peu d'efforts, étant donné que tous les secteurs sont appelés à faire des efforts.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je crois que le prix pour le CROUS et la CVEC, c'est ça, pourrait augmenter. Donc, il y aurait une retombée aussi sur les frais d'inscription. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Et pour la Sorbonne, ce serait 13 millions d'économies qui nous seraient demandées. Donc, même si, en fait, donc, l'université ne fermera pas, c'est tout juste si elle pourrait bien fonctionner, entre guillemets. Parce que, comme le disaient les étudiants et étudiantes interrogées, on ne peut pas renouveler les abonnements aux revues universitaires, les achats de livres, de matériel. Et même si l'université resterait donc publique, l'augmentation des frais ferait un espèce de filtre qui se rapproche de ce qu'on a dans le privé, quoi.
J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la coupe budgétaire s'applique aussi au salaire des professeurs ?
Alors, c'est compris. Donc, pour les étudiants, la transition écologique, les rénovations des bâtiments et la revalorisation des salaires, notamment. Voilà. Et pour ce que tu disais, Clara, par exemple, à l'université de Caen, il y a déjà une augmentation des frais d'inscription de 400 euros.
C'est pareil, c'est incompréhensible parce que ce sont des études publiques et en fait qui permettent. Enfin, justement, qui sont là pour permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des écoles privées de pouvoir quand même faire des études et avoir un semblant d'avenir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, sans études, c'est comme si on n'avait plus de métier. Donc, en fait, empêcher ça, c'est empêcher l'économie de demain. Donc, c'est se tirer une balle dans le pied.
Après, la question se pose, qui crée le plus de richesses ? Est-ce que ce sont les étudiants qui sortent des universités publiques qui font le plus de valeur ajoutée une fois qu'elles sont diplômées et qu'elles travaillent, ou est-ce que ce sont ceux qui sont issus des écoles privées ? La question se pose, hein, je n'ai pas la réponse.
Mais c'est justement parce que les profs ne sont pas assez payés qu'ils ne font pas assez d'argent, contrairement aux étudiants qui sortent d'écoles de commerce.
Et parce que la recherche n'est pas assez bien financée aussi.
Exactement.
Moi, je ne sais pas du tout. Alors, c'est un sujet sur lequel je ne me renseigne pas du tout assez. Du coup, je suis un peu perdue pour ce débat. Mais je sais que j'ai une amie qui est déjà en master et qui a plein d'amis déjà en master. Et je sais qu'elle m'a raconté qu'il y a plusieurs de ses amis qui vont voir leur master arrêter l'année prochaine parce qu'il n'y a pas assez de sous. Et en fait, ils ne l'ont même pas appris de façon officielle. Ils l'ont appris complètement au hasard. Et la Sorbonne, en fait, non, la Sorbonne va pas arrêter de fonctionner. Par contre, c'est carrément au détriment des étudiants. Et c'est pas juste, enfin, parce que tu faisais la comparaison avec les écoles privées, mais ça voudrait dire que ceux qui ont déjà pas assez de sous, genre pour se payer des écoles privées, enfin, c'est quand même sur eux qu'on va, genre, essayer de faire des économies. Genre, c'est pas OK. Voilà.
Moi, ce que je trouve un peu dingue, c'est qu'il y a pas mal de filières qui vont être supprimées. Comme par exemple, notre filière avec
Léma ?
Avec Ellie, oui, carrément, pardon. Risque de se supprimer l'année prochaine. Et je trouve ça triste parce que déjà, que quand on est élève, on a du mal à se retrouver dans une filière particulière. Si on supprime des filières, les élèves de lycée et de collège ont du mal à trouver vraiment leur voie ou vont se mettre dans des voies un petit peu... fourre-tout, comme je sais pas, les voix qui sont vraiment très généralistes, et je trouve ça un peu dommage du coup, parce que c'est pas comme ça que les gens vont se plaire dans leurs études.
Voilà. Après, on peut penser aux solutions. Effectivement, s'il faut faire des économies, etc., on peut se mettre autour de la table et parler des différentes dépenses de l'université. Moi, je suis pas calée là-dessus, mais par exemple, le service achat de la Sorbonne, je sais pas, on pourrait dialoguer avec eux. C'est bien qu'il y ait des assemblées générales, mais pour l'instant, moi, j'ai vu les professeurs et les étudiants et j'ai pas vraiment vu de mesures et de réflexions sur comment on pourrait essayer de peut-être de dépenser moins ou d'avoir une dépense plus intelligente. Tu parlais, Thomas, de valeur ajoutée. Enfin, c'est une question intéressante. On peut se demander, est-ce qu'on peut faire des projets de radio, par exemple, qui seraient soutenus par d'autres associations. Mettre en valeur les capacités des étudiants qui potentiellement pourraient ramener de la valeur ajoutée à l'université. Et tout ça dans le cadre des financements des recherches. Ou alors, par exemple, pour les voyages universitaires, bah, que les étudiants contribuent peut-être un peu plus par la vente, je sais pas, d'objets artisanaux ou de, enfin, des trucs qu'on faisait un peu au collège. Quoi,
on va aller vendre des petits gâteaux.
Alors. Ben voilà, mais ça marchait au collège. Hein. C'est de l'investissement, mais ça marchait. Donc voilà, on peut peut-être... aujourd'hui, on parle beaucoup, enfin, on pousse un coup de gueule, je pense qu'il faut, mais il faudrait parler plus des solutions.
Après, la solution, ce serait justement de ne pas couper le budget de l'université. Et puis, ça s'applique pas seulement à l'université, ça s'applique à l'éducation d'un point de vue général, parce qu'ils ont aussi coupé le pass culture, le pass culture, enfin la part collective du pass culture, ce qui fait que jusqu'en juin 2025, les écoles ne pourront plus faire de sorties scolaires financées par le pass culture. Le pass culture individuel a été scindé en deux. Donc avant, il était de 300 euros, maintenant il est de 150 euros. Enfin, je pense qu'on pourrait prendre de l'argent ailleurs quand on sait que la fraude fiscale atteint les 20 milliards d'euros. Voilà.
Clairement, on pourrait prendre de l'argent ailleurs, surtout qu'on sait qu'il y a aussi des personnes qui sont énormément payées au sein du gouvernement qui... Oui. Dont le rôle ne justifie absolument pas le salaire, voilà, et qu'après retraite, il y a toujours plus de 8000 euros qui tombent dans leur compte par mois. En fait, ça me fait rire de venir s'en prendre à des personnes qui essaient juste d'étudier et peut-être de s'acheter un livre grâce au pass culture, tu vois. Alors que des gens qui vont manger au resto matin, midi, soir, et que ce soit financé surtout, par leur patron. Ou
que c'est... Et surtout que ces lois sont votées par des gens qui ne travaillent pas, en fait, qui font pas d'amendement, qui ne vont pas au Parlement européen. Voilà, leur siège est tout le temps vide, on se demande pourquoi. Et je pense qu'ils sont très, très déconnectés. Et d'ailleurs, ces personnes, en général, n'ont pas fait beaucoup d'études et n'ont pas beaucoup travaillé. Et oui, je vise une personne en particulier.
Puis moi surtout ce qui me rend folle c'est de se dire que même dans les études on donne déjà encore aux privilégiés d'autres privilèges au niveau de l'éducation parce que évidemment ça touche les étudiants les plus précaires, ceux issus de familles un peu plus populaires, etc. Et juste s'il n'y a plus d'accès à l'éducation, ça rompra jamais la chaîne des privilèges, etc. Et moi je trouve ça dingue de ne pas se rendre compte de ça.
Enfin, ce qu'on doit garder en tête, c'est de rester cool. Cool qu'importe les dérapages financiers. Cool même si on peut plus payer le CROUS. Cool selon les décisions gouvernementales. Cool, cool comme Cool Cat. Juliette Armanet nous le dit bien tout de suite sur Cours d'honneur.
Prunelle dans le miroir, je me regarde. Toi, sourire du soir. Moi, sophistiquée en peignoir. C'était cool, ben. Oh, en gros, ben. Pas de contre, pas.
Juliette Armanet l'a bien compris, soyons cool, soyons solaires, soyons solidaires. Et pour cela, rien de mieux qu'une interview de Marina Viguier, responsable des relations presse du festival Solidays.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Chaque été, c'est un peu le rendez-vous immanquable des mélomanes, des fêtards et des cœurs engagés.
On part bien sûr de Solidays. Entre têtes d'affiche, découvertes musicales et luttes solidaires, ce festival fait bien plus que faire danser les foules.
On a eu la chance d'en discuter avec Marina Viguier, responsable presse du festival. Elle nous raconte les coulisses de cet événement unique, son engagement, ses artistes et quelques anecdotes bien croustillantes.
Allez, on vous embarque dans les backstage de Solidays. C'est parti pour l'interview.
Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Marina.
Bonsoir, enchantée.
Donc on a quelques questions à te poser concernant les musiques, pour l'action du festival, concernant le VIH aussi, par rapport à Solidarité Sida, aussi le lien entre les étudiants parisiens et les Solidays, ainsi que peut-être quelques anecdotes.
J'en ai quelques-unes.
On espère.
Est-ce que vous pouvez parler de musique, premièrement?
Avec plaisir, on adore la musique.
Absolument.
Alors, au cours des années, comment la scène musicale a-t-elle évolué ?
Comment la scène musicale a évolué ? Alors, à Solidays ou au sens large ?
À Solidays.
À Solidays. Bah, à Solidays, la scène musicale, elle évolue toujours parce que, en fait, on a. Alors, par rapport aux autres festivals, il y a plusieurs festivals parisiens qui sont un peu concurrents, on va dire. En fait, la scène musicale, elle évolue forcément avec les sensations du moment, les sorties du moment et ce qu'écoutent les jeunes. En fait, on ne va pas forcément se baser sur comment la scène musicale évolue, mais sur qui est notre public et qu'est-ce qu'il écoute et qu'est-ce qu'on va lui proposer du coup par rapport à notre public. Il se trouve que notre public, on est un des festivals où dans le plus, en moyenne d'âge, c'est les plus jeunes. Je pense qu'on se situe entre 15 et 30 ans, 15-25 ans. C'est un peu notre cœur de festival. On entend souvent dire que Solidays est le premier festival que font les jeunes. Souvent, c'est le premier festival qu'on fait, souvent, c'est Solidays. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, parce qu'on est là depuis longtemps. C'est notre 27e édition. Ça a été créé en 99, et l'association a été créée en 92, puisque c'est Solidarité Sida, l'association qui produit le festival. Donc, c'est les équipes de l'association, les salariés de l'association, qui produisent le festival avec plein d'autres personnes. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que les jeunes de 15, 25, 30 ans écoute, quand on regarde les streams, en ce moment c'est beaucoup de rap. Et ça fait quelques années qu'on est sur une dynamique très rap. Donc en fait, là l'enjeu ça a été d'aller chercher les sensations rap du moment, les grosses têtes d'affiche des Damso, des SCH, des Shai qui va sortir un nouveau projet qu'elle présentera pour une date unique à Solidays. Donc ça va être énorme. Oui, Renoir, Kalash, c'est vraiment les gros rappeurs du moment, Riles aussi. Et après, on va aller chercher peut-être d'autres artistes qui ne sont pas forcément encore très connus, mais sur lesquels on fait des paris. Par exemple, on a Zao Tsagazan. Il y a 2 ou 3 ans, on l'avait déjà faite. Et c'était à l'époque où elle commençait à faire ses grosses scènes de festival. Et entre-temps, elle a joué au JO, elle a fait le Festival de Cannes. Elle a fait, je ne sais pas combien de fois, les Zéniths. Elle a rempli 10 Olympias en très très peu de temps, peut-être même plus. Et elle, quand on a fait le pari de cette artiste, c'est que la programmatrice du festival, la directrice artistique, Hilda Agbenou, en fait, elle suit des artistes parfois pendant des années. Elle écoute un peu. Elle est très à l'écoute, en fait, de notre public. Et on a un comité artistique, en fait, qui nous permet de savoir un peu ce qu'ils écoutent, ce qu'ils font. C'est un panel de personnes très différentes et qui vont à des concerts et qui nous font, qui nous disent ça c'était super, ça il y avait de l'ambiance, ça c'était génial, ou ça j'ai peut-être moins aimé, et voilà, et avec tout ça, avec un peu, on sonde un peu, on regarde aussi beaucoup la presse, moi je fais une veille presse très active aussi sur ce qui sont un peu dans les médias, soit des médias mainstream, ce qu'on va beaucoup voir dans des gros médias, soit dans des plus petits médias, un peu plus niche on va dire, peut-être voir émerger des choses. Par exemple, je sais qu'Ioa, qu'on vient de programmer, qui est une artiste pop française, on va dire, c'est un peu comme si on veut mettre une couleur dessus, et qui vient de gagner une victoire de la musique en révélation scène. Par exemple, ça fait des années qu'on la voit sur scène, qu'on l'écoute, et que là on s'est dit que c'était le bon moment. Et là, elle arrive avec une proposition qui est super forte. Moi, en tout cas, c'est un de mes coups de cœur de la programmation. Et après, on va aller chercher des choses qui sont des choses peut-être plus installées, pour aussi rassurer une autre partie du public, qui va être, par exemple, MC Solar, qui est quand même une légende du rap. Yel, qui fête les 20 ans d'un de ses disques. Voilà, ça c'est des artistes, je pense Sean Paul, je pense que tout le monde connaît, Gims, 20 ans de carrière, et on a beau dire Gims, tout le monde a écouté ou écoute Gims à un moment, on connaît tous ses tubes, et que même si c'est peut-être pas un truc qu'on va écouter tous les jours, quand on va entendre du Gims à Solidays, à l'Hippodrome de Longchamp, en été, avec de la musique, dehors, avec une espèce de ferveur, on va tous aller danser, quoi, c'est sûr, ou chanter, voilà.
Mais alors justement, comment est-ce que vous faites pour trouver un équilibre entre ces stars et les découvertes émergentes que vous avez? Comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait une espèce quand même d'osmose qui se crée et qu'il n'y ait pas un trop grand décalage par rapport aux écoutes?
Bah, de toute façon, déjà on est limité par l'espace. Il y a une grande, il y a deux grandes scènes, on va dire, qui sont des très très grandes scènes, où là on va accueillir vraiment les têtes d'affiche. Et tu vois, t'en as 4-5 par jour, pas plus. Et donc après aussi, il y a des personnes qui viennent à Solidays pour découvrir des artistes et qui sont peut-être plus mélomanes et qui ont envie d'aller dénicher un peu, envie d'être précurseur sur ce qu'on va tous écouter demain. Et donc du coup on a une proposition forte aussi sur tu vois par exemple là dans la programmation, on va programmer Denden qui c'est son premier concert, on programme Lamano 1.9 qui est aussi un rappeur là qui est en train d'exploser sur les streams, c'est sa première date. Tu vois, c'est des choses qui sont peut-être Candor Cyclone, qui est une espèce de phénomène TikTok qu'on n'a pas encore trop vu. Et en fait, l'idée, c'est de faire des paris. En fait, c'est un pari de dire, bah, nous, on pense que ça, demain, c'est ce que beaucoup, beaucoup de gens vont écouter ou qui va devenir mainstream, soit très mainstream ou soit peut-être quelque chose de niche, mais qui va être très écouté. Parce qu'après, tu peux avoir un public très fidèle, mais qui est très de niche. Et c'est un pari risqué, mais c'est un pari aussi. Et ça fait quelque chose de plutôt intéressant. Et après, on se concentre aussi quand même sur un truc, que tu sois un énorme artiste ou un artiste en devenir ou peut-être plus niche, on va aussi chercher la performance. On va aller chercher quelque chose où sur scène il se passe quelque chose, où on le projette à Solidays en festival, où on projette en fait une ambiance, où on projette une performance en fait. Donc on va aussi vraiment aller chercher des projections artistiques très fortes et des artistes peut-être que ouais, qu'on voit peut-être pas beaucoup ailleurs. L'année dernière, je sais qu'on avait programmé une artiste qui sortait un peu de nulle part, qui s'appelle Théa, qui a une proposition live qui est juste une espèce de pop rock hyper fort qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Et ça, c'était des choses super intéressantes et qui maintenant fait complet partout, alors qu'il y a encore un an, personne n'en entendait parler. Et donc, on est assez fiers aussi à Solidays d'être souvent, pour beaucoup d'artistes, un espèce de passage obligé, un espèce de tremplin, puisque comme on est un des plus gros festivals de France, je crois que le deuxième plus gros festival de France avec une jauge jour d'à peu près 80 000 personnes, c'est énorme, c'est une ville, c'est une grande ville d'ailleurs, pendant 3 jours, et en fait, bah, pour les artistes, c'est quelque chose de dingue de passer là, d'avoir en plus la puissance médiatique, parce que nous on fait sur nos réseaux sociaux avec les médias, on fait beaucoup de promotions, donc on entend parler d'artistes qu'on a peut-être jamais connus avant, puis les gens sont très curieux, donc ils vont écouter aussi un peu ce qu'on propose, et ils nous font confiance, parce qu'à force, voilà, on est là depuis 27 ans, les gens nous font confiance. Et donc ça nous devient un passage un peu obligé. Je sais que j'avais entendu un producteur de rap qui disait que bah, pour ces artistes, Solidays c'était le passage obligé.
Mais on sait justement, Solidays a un gros impact aussi sur les étudiants parisiens, et pas que d'ailleurs. Il y en a qui font le voyage pour venir jusqu'à Paris juste pour le Solidays. Comment vous voyez l'engagement des jeunes dans des causes sociales comme la lutte contre le VIH à travers cet événement?
Moi, j'ai pas de données chiffrées exactes, j'ai pas lu d'études, j'ai pas fait d'études, donc je vais parler purement d'un ressenti qui est le mien. Ça fait 6 ans que je suis à ce poste et à cette responsabilité. Moi, j'ai l'impression que, avec, en plus, je suis la responsable presse, mais je suis aussi devenue la responsable des créateurs, créatrices de contenu. Donc vraiment, dans ma stratégie média, j'ai intégré en fait ce qu'on appelle les influenceurs, mais moi, je préfère dire des créateurs et créatrices de contenu, parce que je choisis vraiment des personnes qui créent des contenus intéressants, soit pédagogiques, soit drôles, peu importe, il y a plein de façons de créer des contenus. Je trouve que déjà, avec l'émergence des réseaux sociaux, les jeunes sont vachement alertes sur beaucoup de sujets. Moi, j'ai plus de 30 ans et j'aurais aimé, par exemple, tout ce qui est sur le féminisme, sur les questions de genre, d'identité, de façon de relationner, sur la vie affective. Je pense que je me suis posé beaucoup de questions dans la vingtaine quand j'étais étudiante et que vous avez accès à des réponses que nous, on n'avait pas forcément. Enfin, nous, on n'avait pas les smartphones. Hein. On commence à avoir les smartphones. Oui, peut-être à la fin de mon lycée, on commence à les avoir. Et c'était les forfaits qui coûtaient super cher encore. C'était un internet super lent. Enfin, t'avais pas d'application vraiment. Enfin, c'était un peu, voilà. Ça arrivait un peu plus tard. Et donc déjà, je trouve que déjà il y a un niveau d'information qui est plus avancé, je trouve. Et après, je trouve qu'il y a, enfin, j'ai l'impression que quand même la jeunesse a envie de, d'être militante. Et enfin, je trouve que par exemple, des femmes de 20 ans sont plus féministes que les femmes de 20 ans de mon époque, il y a 10 ans du coup. Et ça, je trouve ça génial. Et nous, on a un village des associations à Solidays qui accueille une centaine d'associations de tout secteur confondu. C'est pas que des associations VIH/SIDA, c'est des associations de lutte pour l'environnement, de droits humains, contre le mal logement, enfin de plein de choses. Et en fait, le critère de recrutement de ces associations à Solidays, c'est qu'elles-mêmes recrutent des bénévoles. Et donc, du coup, on invite les jeunes qui sont sur le festival à aller dans ce village asso pour découvrir des causes et donner leur envie de s'engager. On prend la parole sur scène pour parler de solidarité et d'engagement. Et donc, je pense que les gens sont assez réceptifs quand même. Et je pense que, en plus, vu le contexte politique, tout ce qui se passe, je pense qu'en plus, après les années Covid, vous vous êtes pris en plus pendant vos études, soit lycée, soit fac, le Covid, de l'isolement, des choses qui ont été très rudes. Je pense que vous avez une envie aussi de vous faire entendre. J'ai ce sentiment, en tout cas, après, peut-être que je me trompe, mais je l'espère. Et puis après, voilà, vu ce qui se passe dans l'actualité mondiale sur le VIH-SIDA, ça c'est encore...
Et justement, concernant le VIH et le SIDA, quelles sont les actions concrètes qui ont été lancées par l'association de Solidarité SIDA au-delà du festival?
Donc au-delà du festival, on a fait pas mal d'actions. Donc déjà chaque année, on organise un gala de levée de fonds avec des entreprises qui nous permettent de financer énormément de programmes, environ une cinquantaine de programmes. On a 50 associations et ça représente une centaine de programmes d'aide aux malades en Afrique francophone principalement, mais on a aussi des actions en Ukraine, en Russie, en Inde et une cinquantaine d'actions aussi en France. Concrètement, qu'est-ce que ça va être comme association? Par exemple, on a une association qu'on finance. Donc en fait, nous, on lève des fonds et on devient nous-mêmes bailleurs d'autres associations. Donc en fait, on récolte des fonds et on va redonner l'argent à d'autres associations. Donc par exemple, il y a au Nigeria, il y a une clinique mobile pour se faire dépister ou pour faire de la prévention dans des endroits très très reculés au Nigeria où ils n'ont pas forcément accès aux soins. Donc ça, c'est des choses essentielles. Je sais qu'à Tanger, on a une association qui s'appelle le 100% Maman qui permet à des mères célibataires qui sont des personnes clés, on appelle ça des personnes clés, donc des femmes en situation de précarité sont des personnes qui sont plus susceptibles d'attraper le VIH-SIDA et donc du coup on va cibler des personnes clés. En France par exemple, il y a une association qui s'appelle le Bus des Femmes qu'on finance également. C'est un bus qui fait le tour de Paris et qui va avoir des travailleuses du sexe, des travailleurs et travailleuses du sexe, et qui va faire des actions de prévention, de l'écoute, qui va leur donner un café en plein hiver quand il fait moins 7 degrés, qu'elles sont au bois de Boulogne. Voilà, j'ai eu la chance d'accompagner cette association une fois et c'est très concret. En fait, il y a vraiment des actions. Et donc, en venant à Solidays, en fait, on ne se rend pas compte qu'on finance directement des actions comme ça. Et il y a également une action qui est très emblématique de chez nous, qui s'appelle les après-midi du zapping. Et donc, on va dans plein de lycées. En fait, on va à la rencontre des lycéens et donc on rassemble à peu près 150 et 300 lycéens dans des amphithéâtres, dans des cinémas, en fait, dans des lieux qui sont hors les murs du lycée, pour leur parler de santé sexuelle et de vie affective. Et là, on va passer un après-midi avec eux pour leur expliquer c'est quoi le désir, c'est quoi le plaisir, mais aussi les risques qui y sont afférents, parce que la sexualité, c'est pas que le VIH-SIDA, c'est aussi quelque chose de très fun. On va parler d'identité de genre, on va parler de pluralité des sexualités et que, aussi des corps. Dire que tous les corps sont OK. On aborde ces choses-là et c'est très interactif. Donc ça, c'est une action qu'on fait un peu dans toute la France.
Est-ce que vous avez des partenariats avec des universités ou des écoles?
Non, je ne crois pas. Alors, avec des médias, des écoles et des écoles, oui, ça, on peut avoir des partenariats comme ça. Mais pour l'instant, non, on n'intervient vraiment que dans les lycées. Donc parce qu'il y a d'autres associations aussi qui occupent ces terrains-là. Et donc nous on est focus lycée. Et après on n'est pas non plus 250 000, on aimerait être partout. Mais on fait des maraudes en revanche dans plusieurs villes de France où on vient avec du matériel de prévention rodé. C'est vraiment on rôde autour de lieux qui peuvent être festifs ou de fac. Par exemple là on est souvent l'été pas très loin de la Sorbonne. En tout cas, là, au printemps, quand vous avez encore cours. Et je sais qu'on peut passer un peu dans les rues aux alentours où vous allez faire des apéros sur les quais ou des choses comme ça. Nous, on peut passer avec des équipes de bénévoles pour discuter un peu tranquillement de santé sexuelle et de vie affective.
Alors est-ce que, parce que là vous avez beaucoup de bénévoles justement et de jeunes engagés, est-ce que eux aussi ont des anecdotes, si là on peut parler un peu anecdotes, est-ce qu'ils ont des anecdotes ou des moments un peu inoubliables qui vous aurez marqué aussi?
Ah bah oui, alors on a environ 3000 bénévoles actifs à l'année à Solidarité SIDA et Solidays, donc il y a quand même une grosse partie, ça se concentre à Solidays, mais il y a ceux qui vendent les rubans rouges, souvent quand vous allez à un concert vous avez parfois des personnes qui vendent des rubans rouges à l'entrée, bah c'est nous. Donc n'hésitez pas à donner une petite pièce. Je le fais en ASMR, comme ça. ah oui, il y a des anecdotes. Bah, déjà, souvent, à la fin de Solidays, on fait un hommage aux bénévoles. Donc on remercie les bénévoles sur scène. Et donc, on fait monter sur scène quelques bénévoles, une cinquantaine, je crois, ou une centaine, qu'on a choisi dans les équipes, parce que soit on veut les remercier en tant que chef d'équipe, soit on veut remercier nos bénévoles, ou on s'est dit pendant les 3 jours de Solidays, ce bénévole, il a tout donné, il était trop bien et tout. Et donc on le fait monter sur scène à la fin du dernier concert de Solidays le dimanche soir. Et en fait, c'est la grosse fête, on met un peu notre hymne qui est I Will Survive. Et là, les gens se dansent et tout. Et il y a tous les festivaliers, genre, je sais pas combien il peut y avoir de personnes à ce moment-là, peut-être 60 000 personnes. 50 000, je sais pas, qui les applaudissent, qui les remercient. Et moi, une fois, on m'a fait monter mon premier Solidays, on m'a fait monter. J'étais salariée, mais on fait aussi monter quelques salariés pour les remercier. Donc il y a les bénévoles et les salariés qui montent sur scène. Et là, en fait, avoir un mur, je vous souhaite de vivre ça un jour dans votre vie, un mur de 60 000 personnes qui hurlent merci. Il y en a qui pleurent au premier rang, parce qu'il y a des gens pour qui Solidays, ils y vont depuis qu'ils sont tout petits. Enfin. Et ça, c'était fou. Et de danser sur scène après 3 jours de festival où on a dormi peut-être 2-3 heures par jour, qu'on est épuisé parce que ça fait 1 an qu'on bosse sur le projet. Et ça, c'était un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote? Bah, MC Solar qui joue au baby-foot avec les bénévoles, puisque MC Solar, c'est notre parrain. C'est un des parrains historiques de Solidarité SIDA. Et donc, il y a des bénévoles qui ont été amenés à jouer au baby-foot avec MC Solar. Je trouve ça super drôle. Je trouve ça super mignon. Et après, on a eu des personnalités aussi qui se sont engagées, qui sont devenues bénévoles quelques heures par Solidays chaque année. On a Léa Salamé, Denis Brognard, Hugo Décrypte qui viennent et qui nous prêtent un peu main forte. Et c'est un peu une opération pour montrer, allez-y, tout le monde, venez, tout le monde met la main à la pâte et c'est rigolo. Et vraiment, je crois que la meilleure façon de faire Solidays, en vrai, c'est en tant que bénévole.
L'interview touche malheureusement à sa fin. On a beaucoup parlé du Solidays, mais à court d'honneur, on ne peut pas laisser partir l'invité sans lui poser notre fameuse question. Que représente la Sorbonne pour vous?
Bah pour moi, c'est un truc un peu mythique. Alors moi, je n'ai pas du tout étudié à la Sorbonne, j'ai étudié à l'UPJV, c'est à Amiens. La Sorbonne, c'est un peu les... Pour moi, alors j'ai vraiment un truc de genre film d'auteur. Moi, quand je pense à la Sorbonne, genre vraiment, j'ai ce truc un peu dramatique. Mais pour moi, c'est une institution française. Et tout à l'heure, j'écoutais votre débat sur la coupe budgétaire. Il ne faut absolument pas couper les fonds pour l'éducation et l'enseignement supérieur et la recherche. En fait, il faut arrêter le délire avec couper les fonds, les budgets de l'hôpital, de la fac. En fait, s'il y a un truc dans lequel il faut investir, je pense que c'est l'enseignement, la santé et la culture. Et fin du débat. Et après, oui, on va couper. Peut-être on peut aller couper les petits fours à l'Élysée, même si je pense que ce n'est pas fondamentalement ça qui va changer la donne. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde.
Un grand merci à Marina Viguier pour cet échange enrichissant. Les Solidays reviennent cette année du 27 au 29 juin à l'Hippodrome de Paris-Longchamp au programme des artistes incontournables comme Damso, Gims, Sean Paul, Fischer, SCH et bien d'autres. Rendez-vous sur le site officiel pour plus d'infos et pour réserver vos places. Et n'oubliez pas, l'engagement de Solidarité SIDA ne s'arrête pas au festival. Soutenez-le toute l'année.
Après avoir parlé festival, on poursuit dans cet élan mélomane. On parle d'une femme qui, elle, n'a pas le VIH. Non, non, c'est moins grave, mais elle en a vraiment marre. Et ça fait mal, tout de suite, la femme sur Cour d'honneur avec son fameux titre, Mycose.
Thank you.
C'était Nico sur Cour d'honneur de La Femme. Effectivement, beaucoup de femmes en ont et gare au tabou, majoritairement à cause de l'amour. Et oui, ce love qui nous fait oublier toute protection ou précaution. Lavinia nous présente justement ce love dans un couple qui, on l'espère, n'a pas chopé de mycose.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau monde.
Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me.
Il nous aura fallu une sacrée rallonge de temps après le 14 février pour dénicher un couple à la Sorbonne, mais pas d'inquiétude, l'amour de jeunesse est loin de faner dans les amphis, et en particulier celui que Shannan et Alia éprouvent l'un pour l'autre suffirait à faire fondre même les cœurs les plus sceptiques.
Et oui Chérine, ça fait quelque temps que j'ai repéré ce couple inséparable dans les amphis de ma licence de philosophie. Pour le coup, on peut dire qu'ils incarnent à la lettre le préfixe « philo » dans le mot, un amour non seulement du savoir, mais aussi de l'autre. Et à les entendre parler du lien qui les unit, on pourrait même rajouter un amour de la sagesse à deux. Shannan et Alia se sont rencontrés l'an dernier dans un atelier de projet professionnel. C'est là qu'ils ont découvert leur passion commune pour l'enseignement, et aussi une autre passion, car c'est là que leur histoire d'amour a commencé. Et il faut dire que le hasard a bien fait les choses. Au départ, Shannan avait intégré une fac de sciences avant de se réorienter vers ce qui le passionnait vraiment. Et le voilà qui rejoint la même promo qu'Alia, qui elle savait depuis le lycée qu'elle voulait faire de la philo. Voilà donc un couple qui a pu voir le jour grâce à la Sorbonne. Je vous laisse maintenant avec leur témoignage.
Alia, je l'ai rencontrée, maintenant je l'appelle Meleğim, parce qu'elle est d'origine turque. Du coup, ça veut dire mon ange. Donc je l'ai rencontrée au cours de travaux personnels encadrés. Bah, il y a eu un coup de foudre quand on s'est vu pour la première fois. Quand elle est venue dans mon groupe, je l'ai remarquée tout de suite.
Officiellement, la première rencontre s'est passée en cours, du coup. Mais officieusement, je dirais que la vraie rencontre s'est passée un peu avant. Enfin, déjà en L1, parce que je l'avais repérée, mais il ne m'avait pas encore vue. Et j'avoue que je l'espionnais. Il y a des fois que je le voyais dans les transports, mais je n'osais pas lui parler. Franchement, j'ai mis un an à venir lui parler.
Et donc, je la trouvais très jolie, très belle. Et même ses idées, c'était brillant. Elle était intelligente. Elle l'est toujours, intelligente, toujours aussi belle. Au départ, moi, j'étais plutôt timide, donc j'extériorisais pas ce que je pensais d'elle. Mais elle, par contre, elle n'a pas hésité.
Je l'avais jamais vue d'aussi près. Et j'avoue que sa beauté, elle m'a impressionnée. Et j'arrêtais pas de le dire. En fait, je suis quelqu'un de très direct. J'ai pensé à plusieurs reprises qu'il est beau. Et à chaque fois que je le pensais, j'ai pas pu m'empêcher de le dire. C'est comme si que ma bouche parlait à ma place. Vraiment, je lui ai fait, je rentre dedans. Sa réaction, elle était vraiment mignonne et en même temps, elle m'a fait rire parce que c'était pas du tout naturel. Ça se voyait qu'il a regardé trop de films de comédie, de romance. Et il m'a regardé genre un peu style bad boy et il a tourné la tête, mis la main dans les cheveux. Il m'a regardé, il m'a dit « Tu trouves que je suis beau ?» mais avec un regard un peu ténébreux. Ça se voyait qu'il se dénait un genre. Et ça m'a fait rire tout de suite. Il était vraiment matrixé, ça se voyait. C'était pas du tout naturel. Mais je l'ai décoincé un peu, mais voilà. Il était très sérieux, très protocolaire.
Par la suite, on s'est rencontrés plusieurs fois dans les couloirs. Il y avait des jeux de regard, on se parlait et on s'est rendu compte que finalement, il y avait un bon feeling entre nous. Par la suite, on a commencé à sortir, à se voir souvent.
En même temps, je pense qu'on serait pas ensemble si c'était pas à la Sorbonne parce que je trouve que c'est un climat de confiance dans le sens où je peux voir vraiment qui il est sans pour autant l'approcher. Alors que ça aurait été dans un autre contexte, genre restaurant ou je sais pas moi, les transports dans la rue, ça m'aurait mis mal à l'aise et je pense que j'aurais pas accepté. Franchement, à la Sorbonne, ça a à peu près tout fait. Je dirais.
Heureusement que la Sorbonne, elle proposait des cours en rapport avec ce qu'on voulait faire plus tard, etc. C'est à ce moment-là qu'on a pu se rencontrer, qu'on a pu partager une passion commune, donc l'enseignement. Voilà, grâce à ça, du coup, ça nous a amené justement à nous rencontrer, à nous voir et maintenant à s'aimer.
On est très complémentaires, je suis quelqu'un de bordélique, il est quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un de très jovial, etc. Et lui, il est plus renfermé. Je trouve que vraiment, on a un équilibre, on s'apporte quelque chose à chacun qu'on n'aurait pas sans l'autre, en fait. Ça crée beaucoup de disputes aussi, mais ça crée une harmonie. Des mondes qui s'entrechoquent et j'aime beaucoup cette différence qu'il m'apporte. Il me donne vraiment le courage que j'ai pas, entre guillemets.
Franchement, je la remercie de m'avoir fait évoluer. Avant, j'étais une personne plutôt timide, coincée. Par la suite, elle m'a permis justement de prendre une certaine maturité, de grandir intérieurement, de prendre conscience qu'il n'y a pas que les études ou le côté où il faut être trop sérieux. Justement, dans la vie de couple, elle m'a montré qu'il y avait de la valeur, une chose importante. C'est une personne unique dans sa sincérité, parce qu'elle est très très sincère, très très authentique. J'aime beaucoup ça chez elle.
Et voilà, et nous on aime beaucoup aussi la chronique In Love, ou plutôt la chronique pour nous rendre jaloux. Et oui, on a donc soif d'amour sur Cours d'honneur, mais aussi et surtout de bonnes adresses pas chères. Tout de suite, la chronique débrouille, waouh. Et vous allez voir, le thème de cette semaine est plutôt surprenant.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table !
Courir et manger, mais quelle drôle d'idée. Et oui, c'est le concept des nouveaux running clubs. Alors ouvrez grand vos oreilles car Clara va nous régaler les papilles.
Je sais pas. Si. C'est bon, t'entends. Et oui, Jamie, tu les as pas remarqués, ces groupes de coureurs débouler en musique au jardin du Luxembourg ou dans les rues de Beaubourg, puis se masser devant une pizzeria ou une boutique de chocolat? Ces running clubs de nouvelle génération ont poussé comme des champignons depuis la rentrée 2024. Un footing? Non, mais je dois aller faire des courses. Attends, non, j'ai trop bu hier. Oh, et puis courir avec tout ce monde là qui envahit les quais, soi-disant Paris-Blage. Pas possible d'y mettre un pied.
Laissez-moi partir.
Exemple personnel à part, je suis sûre qu'on a déjà tous renvoyé au calendrier grec le rendez-vous avec la rue et ses baskets. Et pourtant, je vous en rappelle pas les bénéfices, hein. Élimination des toxines, renforcement des os, prévention des maladies cardiovasculaires.
Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Réduction du stress par production de tryptophane, sérotonine, noradrénaline, selon les récentes études parues dans Science. Ok, je m'arrête là, car le nouvel argument, et pas des moindres, c'est manger gratuitement. Alors, flan, fromage, cookies, il y en a pour tous les goûts.
Allô.
Alors, ils mangeront ?
Et comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Avec le Food Runner, club fondé fin novembre par Théo et Théo, de super potes fans de course à pied et dont Bon Petit Mai, c'est une adresse salée tous les mardis soirs à 19h et la version sucrée le week-end à 10h. Un âge limite ? Non, tant que tu cours. Un niveau ? Non, plusieurs, au choix, entre 5 et 8 km. Et franchement, courir avec la grosse sono et en formation troupeau, ça slay, comme dirait Beyoncé. T'as un peu l'impression de préparer le marathon de Paris, ou plutôt le Schneider Electric Marathon du 42 km.
100 km à pied, ça use, 100 km à pied, ça use les souliers.
Qui va accueillir 54 000 coureurs le 13 avril, donc conducteur, s'abstenir s'il vous plaît. Bref, les gens te regardent souvent passer avec amusement, bon, sauf l'autre papy qui est descendu en pyjama samedi dernier parce qu'on s'est chauffé sur la place en bas de chez lui. Visiblement pas prêt pour beaucoup de fun, un soupçon de gourmandise, une louche de folie et une grosse pincée de bienveillance. Et oui, ce sont les critères pour être membre du club. Et si je ne vous ai pas convaincu...
Bon, l'appétit vient en mangeant.
Mais surtout, c'est qu'il y a des groupes focus sur une spécialité. Tu peux share a cookie to run butter avec le Cookie Run Club, ou sinon eat pasta to run fasta aux côtés du Fasta Pasta Club, ou alors flamber avec le Running Flan Club. Tester tous les flancs de Paris pour trouver le meilleur en courant, c'est ce qui a motivé les deux frères de 26 et 23 ans. Créé en septembre dernier, c'est d'ailleurs le club pionnier de l'histoire. Et malgré mes nombreuses recherches sur le net, je n'ai pas trouvé de précédent à cette vague de running club liée à la nourriture, ni d'équivalent dans les autres pays, même si je soupçonne une petite origine anglo-saxonne. Et certes, les Covid et les Jeux Olympiques ont intensifié l'engouement pour la course, mais la fusion avec la bonne bouffe, peut-être est-ce pour mêler deux ingrédients de la recette du bon vivant.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Deux passions qui ont trop longtemps été séparées. Un moyen de retrouver la nourriture comme carburant de notre cœur. Et à l'heure du trend skinny talk, véritable apologie de la minceur sur TikTok, c'est un beau pied de nez au conformisme corporel. Et ça marche!
À la base, on était juste entre potes à manger des cookies. On était à peine 40 et on commençait à tester des adresses. Ensuite, on a commencé par faire des runs le soir. On a vite compris que ça plaisait. Alors on a continué et continué. Le 1er janvier, au lieu de 40, on est passé à 100 et de plus en plus de gens nous ont rejoints. Alors on a décidé de créer des événements encore plus fous. On a organisé un run à 300. On a continué les runs du soir. On a fait un défilé sauvage devant Opéra.
Comme nous le dit Théo, certaines courses réunissent jusqu'à 300 personnes. Et alors les places partent vite, hein. Comme des petits pains. Oui, il faut s'inscrire sur le pour recevoir le point de rendez-vous. Et c'est comme l'ouverture d'une billetterie, hein, comme les Solidays. Enfin, bon, pas encore, mais bon, il faut être dans les starting blocks, quoi. Et pour Food Runner, télécharge l'application Helio. Dès la fin de la course, tu peux t'inscrire déjà pour la séance de la semaine d'après.
Allez Michel, allez.
Rien ne les arrête, allez, même moins un degré en janvier n'a pas empêché les 250 coureurs à se retrouver place de la République. Et si depuis la société du club des coureurs, premier club créé en 1875. La valeur sociale est dans le courir ensemble. Théo et Théo sont allés plus loin et ont profité de leur popularité pour organiser des courses caritatives. Pour la journée du macaron qui s'élève depuis 20 ans, le printemps et la gourmandise au profit d'un projet caritatif, le club s'est associé à Pierre Hermé pour déguster des macarons durant la course du 15 mars. Les fonds ont été récoltés par l'association Princesse Margot qui soutient des enfants touchés par un cancer pédiatrique ainsi que leur famille. En 10 ans, 9500 enfants ont pu être pris en charge. L'autre truc chouette, c'est que le concept s'est développé à Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille ou encore Marseille. Et si ta Madeleine de Proust n'est pas encore mise à l'honneur, alors vas-y, lance ton running club. Le mien, ce serait Tirarun pour dégoter les meilleurs tiramisu. J'irai au tira, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Alice, en fait, je comptais plutôt sur toi pour me trouver un meilleur jeu de mots. Donc voilà, si toi aussi, il te manque ce petit coup de boost pour aller courir, inscris-toi au club qui te fera vriller les papilles.
N'empêche que le clafouti, c'est quand même le truc le plus clafoutant de cette fichue planète.
Merci Clara. Et tu m'as donné faim entre ces flancs et ces cookies. Tu m'as pas donné, mais pas du tout, donné envie d'aller courir. C'est raté.
Mais si, il faut. pense à ce qu'il y a après.
On pense qu'à la nourriture gratuite, justement, en fait. Hein. Et des mecs qui sont dans le groupe.
Théo et Théo. Alors, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
C'est la question à laquelle on répond sur Cours d'honneur.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, la radio étudiante qui fait le tour de la fac et de ses campus. Vendredi dernier, une figure de la musique française et malienne nous a quitté, Amadou du duo Amadou et Mariam, duo qui n'avait certes pas les yeux mais certainement l'oreille absolue et qui a rythmé ses 20 dernières années. Ils s'étaient fait connaître avec leur titre Dimanche à Bamako, paru en 2004, et un an après, c'était au tour de leur titre nostalgique et mélancolique Sabali.
Après, je vous appelle, merci. Merci, bye.
Entendre Sabali, un morceau d'Amadou et Mariam qui nous rappelle que la patience est une force. Un petit bijou qui fait voyager sans bouger d'un pouce. Douce vibe, soleil dans les oreilles. Restez avec nous, on continue à voyager avec la chronique pavée, tout de suite avec Alice.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
D'ailleurs, Swan, j'y pense là, comme ça d'un coup. Comment ça va tes dents ?
Bah écoute, j'ai tellement vu mon dentiste que je vais finir par le choper, mais sinon non, tout va bien, tout va bien, tout va mieux.
Oula, décidément tes molaires ont vraiment une dent contre toi. Tu sais, hein, si la douleur te relance, Alice a trouvé la solution parfaite pour toi. Tends bien l'oreille, c'est l'heure de la chronique pavée.
Rhume très trop satisfait de loger dans votre nez et refusant de résilier le bail habitation, dépression saisonnière qui a oublié de poser ses congés vacances en même temps que vous, ou une vilaine tache suspecte sur l'épaule qui commence un peu trop à ressembler à la tête de Cyril Hanouna à votre goût, et vous en avez marre d'enchaîner les rendez-vous d'Octolib aussi peu efficaces que les infirmières de collège qui vous donnaient de l'eau au sucre et une petite tape sur l'épaule, ne vous inquiétez plus, cher auditeur, peu importe votre problème, Claude Sabat est votre homme pour une modeste somme, à la hauteur des services proposés en tout cas. Oserais-je dire qu'avant lui, ça bat pas, et après lui, ça bat beaucoup mieux. Arrêtez de rire, c'est trop. Bref, comment ça, Claude Sabat, il ne vous revient toujours pas? Non, non, aucun problème, vraiment, c'est juste que... Comment résumer? Eh bien, si Didier Raoul et Sylvain Durif avaient eu un fils, ce serait Claude Sabat.
Mon nom au plan cosmique, c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique.
Alors pourquoi je vous parle de lui, vous demandez-vous peut-être à juste titre, nous ne sommes pas dans le Sorbonne en personne, c'est quoi cette embrouille? Eh bien parce que le 30 juin 2007, les murs de l'université Sorbonne Panthéon ont accueilli le temps d'une journée une conférence d'une secte, une vraie. Hashtag frisson à la Sorbonne, hashtag trop de suspense, hashtag abrèche frère, on n'a pas de temps pour tes hashtags. Et cette conférence, elle était tenue par Claude Sabat, le fameux chef de file de la mouvance sectaire Biologie Totale des Êtres Vivants, ou BTEV pour les intimes. Personne dit ça. Une secte qui prétend soigner instantanément toutes les maladies, même les plus graves, éclipsant alors de la scène pharmaceutique étudiante nationale les infirmières et leurs sachets de doliprane magiques. Devant 400 personnes environ, qui avaient payé entre 125 et 145 euros l'entrée, rien que ça, il fait l'apologie d'une psychothérapie qui prétend soigner n'importe quoi. Cancer, sida, sclérose en plaques, dépression, paralysie, addiction à la raclette même en été, etc. etc. Mais alors, d'où vient l'assurance de cet homme qui se prend pour le Christ guérisseur? Eh bien Claude, c'est un ancien médecin généraliste retiré de l'ordre, on se demande pourquoi, qui affirme avoir soigné en une seule consultation des maladies des malades atteints de sclérose en plaques ou encore de leucémie. Sa méthode, la chloroquine.
L'histoire de l'hydroxychloroquine, chloroquine.
Et non, je farce, oui encore. Non, sa méthode à lui, elle se nomme déprogrammation biologique, elle serait même efficace par transmission de pensée ou lors de consultations téléphoniques au 3630, si on a été assez sage. Je farce encore. Bon, plus sérieusement, sa méthode est inspirée de la médecine nouvelle germanique du médecin allemand Reich Gierhammer, interdit d'exercice de la médecine en Allemagne depuis 1986 et condamné en juillet 2004 par la cour d'appel de Chambéry à 3 ans de prison pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la médecine.
La boulette! Oups! La boulette! Oups! La boulette! La boulette! Oups! Oh la boulette!
Revenons à Claude Sabat qui fait, ou du moins faisait alors tous les ans et qui veut bien l'entendre, l'éloge de sa méthode miracle lors de conférences en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Une tournée internationale plus longue que certains chanteurs. Le pire, c'est qu'il en a formé le bougre des milliers de thérapeutes censés mettre en œuvre comme lui la déprogrammation biologique auprès de milliers d'autres patients. Attention, il n'oublie pas non plus de répéter à ses auditeurs et élèves que les malades ne doivent pas interrompre les traitements en cours, mais en même temps, il se tient très véhément contre le monde médical. Logique ! De plus, selon Claude le champion, la clé de la guérison serait le patient lui-même, car seul lui détiendrait les clés de ce fameux pouvoir, à condition qu'il l'accueille sans le moindre doute et sans le moindre barrage intellectuel de le dogme de la biologie totale des êtres vivants. En gros, tu guéris, c'est grâce à toi, mais surtout grâce à lui, et si tu guéris pas, c'est à cause de lui, mais surtout à cause de toi. Ça fait réfléchir. Gamberge, gamberge.
Oui, je connais cette théorie, oui.
On va pas se mentir, même si ce discours pourrait séduire bien plus d'un désespéré, je pense que tous les participants à cette conférence du 30 juin 2007 sont repartis changés, oui, mais pas comme ils l'espéraient. Ah, vous ressortez plus léger, c'est sûr, mais c'est seulement le vide que laissent les 145 euros derrière eux. Alors Swan, pour tes dents, si la douleur te reprend, je sais que c'est difficile, mais résiste à la tentation, ne contacte pas Claude, garde ton argent par pitié, et achète-toi à la place un paquet de petits pois congelés picards pour apaiser tes bajoux, et te faire maybe une petite purée des familles le soir. Ils sont bien plus efficaces et prennent moins cher de l'heure.
C'était génial, Alice. Merci beaucoup pour cette chronique pavée.
Vous le savez, le temps est bon, le ciel est bleu et dans Cours d'honneur, on aime vous rendre heureux.
On aime aussi vous balader dans notre quartier, le 5e, sur la rive gauche où l'on pense.
Plutôt que sur la rive droite où l'on dépense.
Mais aussi vous balader dans notre fac et ses campus.
Et c'est maintenant l'heure de la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Direction le célèbre campus de Jussieu, connu pour ses laboratoires en sciences et médecine. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit paralympique qui prend le dessus.
Un gymnase transformé en terrain de basket fauteuil pendant la semaine paralympique et olympique. Jade nous plonge dans l'ambiance de cet événement unique.
Je suis Charles Raffaud, professeur de PS à Lettres Sorbonne Université. J'ai une autre casquette puisque je suis directeur adjoint du service des sports. On se retrouve là aujourd'hui pour la semaine olympique et paralympique. Il y a eu la découverte du basket fauteuil en début d'après-midi. Là, ça se poursuit par un tournoi de 3-3. Donc on est dans le gymnase de Jussieu, que je découvre également. Donc la première chose un petit peu frappante, c'est que ça reste un gymnase qui est malgré tout en travaux, qui est en train d'être rénové, qui... Je trouve, à mon sens, c'est un important regret, c'est que sur l'événement du basket fauteuil, les personnes en situation de handicap ne peuvent accéder au gymnase, puisqu'on se retrouve, de par les travaux, avec des échafaudages et des escaliers qui sont relativement raides pour pouvoir descendre. Donc on arrive dans un gymnase où il y a un terrain de hand, trois terrains de basket, un mur d'escalade. Un gymnase qui est extrêmement bien placé puisqu'il est au cœur du campus. Le gymnase à dominante bleue, qui est quand même plutôt lumineux avec d'importantes fenêtres et baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Et puis les étudiants ont répondu présents pour cette semaine olympique et paralympique. Donc on est avec au moins une cinquantaine d'étudiants qui viennent se divertir et participer au tournoi sportif. On a des casiers, les casiers où le matériel est entreposé, notamment casier d'escalade, avec tout ce qui est baudrier, cordes et des gaines.
Pour être capable de monter l'Everest, je dois d'abord monter d'autres montagnes, m'assurer d'être prêt physiquement et techniquement, pour ma sécurité et celle des autres.
Il y a ensuite tout ce qui est ballon de volée, matériel de volée, matériel de futsal, basket, avec tout ce qui est chasuble, coupelle, tout le matériel dont on dispose pour pouvoir enseigner. Ça reste un milieu qui m'est plutôt familier et celui-là est vrai quand même plutôt agréable et lumineux et vivant en tout cas. Je garde quand même une âme, on va pas dire d'enfant, mais aussi de compétiteur parce que je suis toujours sportif à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que très vite, si j'ai la possibilité d'accéder à des ballons, je vais très vite shooter ou me lancer des défis à moi-même pour pouvoir m'amuser parce que à mon sens, ça reste, quoi qu'il arrive, en tout cas un jeu. Et le but, c'est de s'amuser. Donc voilà, moi, ça me donne tout le temps cette envie. Si je viens pas pour travailler, ça me donne envie de m'amuser. Inscrivez-vous, venez pratiquer. Que ce soit en loisir ou en option pour ceux qui en ont la possibilité. Et puis en espérant vous retrouver et être le plus nombreux possible.
Merci Jade pour cette carte postale. Merci, c'était très intéressant. Et c'est vrai que le sport paralympique, on n'en parle pas assez. C'est la fin de Cours d'honneur, épisode 14.
Merci de l'avoir suivi. Merci à notre invitée Marina Viguier.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Et merci surtout à toute l'équipe.
Merci à Lavinia.
Ah, vous commencez par moi. Merci les filles. Ah, c'était génial.
Et merci à Ellie pour ce super débat.
Merci à vous. J'espère que le débat vous a plu et on se voit la prochaine fois.
Merci à Jade aussi.
Merci
pour cette
beaucoup.
Carte postale.
Merci Alice pour cette hilarante chronique bavée.
Merci à vous encore les filles. Prends soin de tes dents, Swan surtout.
Je tiens. Merci à Clara. Merci beaucoup.
Avec plaisir et je propose d'aller manifester en courant.
Oui, la prochaine fois. Grave.
Bon, Elias n'est pas là, on lui fait des bisous, on pense à lui.
Et merci à Thomas qui est derrière les platines.
Ouais, d'ailleurs, on lui a déjà volé son titre de fameux, fameux oui. Claude. Non, c'est le fameux Elias, ne l'oublions pas si vite.
Ça va rester le fameux Elias. Et merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
N'oubliez pas, Cours d'honneur passe en mode
bimensuel.
Un épisode toutes les deux semaines.
On se revoit donc dans deux semaines.
Après les vacances.
Si vous ne savez pas quoi faire,
prenez votre place pour le Solidays.
Votre inscription à Tinder.
Ou votre carte pour la bis. Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous, ciao.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.